إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 88 dans la lecture du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. Et donc on est, bien entendu, c'est avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah. On est toujours dans les points qui ont rapport avec les preuves de l'interdiction d'imiter les kuffars de façon générale. Et on a expliqué au dernier cours l'exemple de Amr ibn Luhay et comment il a été influencé lors de son voyage en Syrie ou à Sham. Et comment, lorsqu'il a vu les gens adorer des idoles, il a été séduit par ça et il a ramené avec lui des idoles à Mecca. Et c'est à partir de ce moment que les gens ont adopté l'idolâtrie dans la péninsule arabe, alors qu'auparavant ils étaient sur la religion d'Abraham, c'est-à-dire le pur monothéisme, le tawhid. Donc, on continue maintenant avec les explications à ce sujet. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, donc il explique, on est à la page 634 du volume 2. Le passage expliqué, c'est le passage numéro 44 dans les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc, il dit ici, شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم، فتشبهوا بعمر بن لحي، وكان عظيم أهل مكة يومئذ، لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج، ما زالوا معظمين زمن إبراهيم عليه السلام، فتشبه عمرو بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه، ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي تعظيما لله ودينا، فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم وأصل تحريم الحلال، وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض، فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل، وتغير دينه الحنيف إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأحيى ملة إبراهيم عليه السلام، وأقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه، Donc, qu'est-ce qu'il explique ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Il dit que on sait très bien que les Arabes, ils étaient sur la religion d'Abraham auparavant. Ils étaient sur la sharia du tawhid et sur la religion yani du pur monothéisme, hein, de l'adoration d'Allah seul et du rejet des idoles et de l'idolâtrie, la religion de leur père Abraham. Et par la suite, ils ont imité l'exemple de Amr ibn Luhay. Et Amr ibn Luhay, c'était yani un homme important, c'était comme un roi pour les gens de la Mecque à ce moment-là. Et yani la tribu qui régnait sur la maison d'Allah à ce moment-là, c'était la tribu de Khuza'a. Et lui, Amr ibn Luhay al-Khuza'i, donc il est de la tribu de Khuza'a. Donc avant Quraysh, c'était la tribu de Khuza'a qui régnait à Mecque. Et tous les autres Arabes voulaient ressembler aux gens de Mecque. Parce que à Mecque, il y a la maison d'Allah. Et c'est vers la maison d'Allah que les gens font le Hajj. Alors, yani, les gens avaient beaucoup de respect pour yani, cette tribu. Et donc, ils ont imité par la suite Amr ibn Luhay. Puisque Amr ibn Luhay lui-même avait imité les gens de la Syrie, ou de la région de Syrie, Palestine, hein, et tous les pays de la région là-bas, qu'on appelle en arabe Sham. Et il a considéré, selon sa logique à lui, que c'était quelque chose de bon, hein, que le shirk que ces gens-là pratiquaient était quelque chose de bon. Alors il a voulu introduire ça à la Mecque. Et il a également interdit des choses par lui-même, comme al-Bahira, al-Sa'iba, al-Wasila, al-Ham. C'est les différents noms qu'il donnait à des différents animaux de bétail, hein, auxquels, par exemple, il allait couper il allait fendre les oreilles ou couper les oreilles pour yani montrer que c'était des vaches ou des animaux sacrés qui avaient été yani offerts aux différentes idoles, et que du moment qu'elles étaient offertes aux idoles, on ne pouvait plus monter sur leur dos ou bien profiter de leur lait ou bien yani des choses de ce genre. Et tout ça, il prétendait que c'était par respect pour la religion, par respect pour Allah et par respect pour yani les idoles, et ainsi de suite. Donc il dit wa kana ma fa'alahu aslu ash-shirki fil 'arab. Donc ce qu'il a fait d'introduire les idoles à la Mecque, c'était la base du shirk, comment le shirk s'est introduit chez les Arabes à l'époque. Wa ahlu din Ibrahim, c'est-à-dire les Arabes, ils étaient à la base sur la religion d'Abraham, et c'est lui, donc Amr, qui a fait rentrer le shirk chez les Arabes et qui a fait rentrer également l'idée d'interdire ce qui est halal. Et comme on l'a dit, il a fait ça uniquement pour ressembler à d'autres personnes sur la terre. Et les choses se sont empirées avec le temps jusqu'à ce que yani, le shirk prenne le dessus sur un des meilleurs parmi les peuples de la terre, et qu'ils arrivent à changer même la religion d'Abraham. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a fait revivre la religion d'Abraham et il a fait établir le tawhid dans la péninsule, et il a rendu halal ce que les mouchriquins avaient interdit. Hein, puisque les mouchriquins avaient interdit des choses sans preuve venant d'Allah. Le cheikh, il dit ensuite, cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage. Il dit قوله ومعلوم أن العرب قبله يعني أن العرب قبل عمرو بن لوحي كانوا على دين إبراهيم عليه السلام على ملة التوحيد، إلى أن جاء هذا الظالم فغير دينهم ونشر الوثنية وحرم ما أحل الله عز وجل، فأطاعوه وانقادوا له لأنه ملكهم وكانوا معجبين به. Donc le cheikh il explique que ici il dit, cheikh al-Islam il dit, on sait que les Arabes auparavant ils étaient sur la religion d'Abraham, c'est-à-dire que les Arabes étaient avant Amr ibn Luhay sur la religion d'Abraham, qui est la religion du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah et de l'adoration d'Allah seul et du rejet de l'idolâtrie, jusqu'à ce que cet injuste vienne changer leur religion et propager l'idolâtrie et interdire ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait permis, et ils lui ont obéi et se sont soumis à lui parce que c'était leur roi et ils étaient impressionnés par lui. Il dit ensuite ولذلك يجب على ولاة الأمور أن يتبصروا بهذا الأمر وأن يحموا رعاياهم وبلادهم من أن يدخل عليها الأفكار الدخيلة والعادات السيئة التي تهدم ولا تبني. أما من كان عند الكفار فيه مصلحة أما ما كان عند الكفار فيه مصلحة راجحة ولا ينافي ديننا فلا بأس به وديننا يأمر بالأخذ به. Donc le cheikh il dit, c'est pour cette raison que les dirigeants et les responsables parmi les musulmans doivent avoir une bonne compréhension de cette chose. Ils doivent protéger leur population et leur pays de faire entrer ou pénétrer des idéologies qui peuvent venir avoir des effets négatifs et des traditions et des coutumes mauvaises qui vont détruire et qui ne vont pas construire. En ce qui concerne ce que les koufars possèdent comme éléments bénéfiques, qui sont des éléments dont le bienfait est plus grand que le mal et dont on peut profiter et qui ne sont pas en contradiction avec notre religion, alors dans ce cas-là, notre religion nous ordonne de le prendre et d'en profiter. Il n'y a aucun problème à ça. Après, le cheikh il explique, il dit وقوله فتشبه بعمر بن لوحي وكان عظيم يعني كان عظيم القوم. Il explique, il dit خلاصة الأمر أن الله أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء البيت على توحيد الله واستقرت عقيدة التوحيد في أرض الحجاز وكان إسماعيل قد خلف أباه عليهما الصلاة والسلام في إقامة هذه الملة وهذه الشريعة الحنيفية، فكانت ولاية البيت بيد إسماعيل عليه السلام، ثم تعاقب عليها قبائل منهم قبيلة جرهم وخزاعة إلى أن آلت إلى قريش وعادت إلى أصلها في بني إسماعيل، ولكن تغير دين إبراهيم على يد عمرو بن لوحي كما سبق بيانه، واستمر هذا التغيير في عهد الجاهلية حيث انتشرت الوثنية وعبادة الأصنام بسبب ما خلفه عمرو بن لوحي، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأعاد الله الحنيفية ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبطل دين الشرك ودين الجاهلية وحطم الأصنام عام الفتح. Donc le cheikh il explique ensuite que, en résumé, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim alayhi salam et à Ismaïl alayhi salam de construire la maison sur le tawhid, c'est-à-dire la maison sacrée qui est la Kaaba. et d'établir et d'installer l'aqida du tawhid sur la terre du Hijaz, hein, la région qu'on appelle Al-Hijaz, qui est la région où on retrouve la Mecque et Médine. Et Ismaïl alayhi salam, hein, c'est lui qui est resté après son père pour yani gérer et s'occuper, hein, de l'établissement de cette religion et de la charia d'Abraham et du tawhid dans la région. Donc la gestion et l'autorité et le pouvoir et la responsabilité de la maison est restée entre les mains d'Ismaïl alayhi salam. Puis ensuite, différentes tribus, parmi les différentes tribus, se sont relayées dans la gestion de la Kaaba et de la Mecque, comme la tribu de Jurhum et la tribu de Khuza'a, jusqu'à ce que yani cela revienne à la tribu de Quraysh, hein, c'est-à-dire la base de la tribu de Ismaïl. Mais yani la religion d'Abraham avait changé par la main de Amr ibn Luhay, comme on l'a expliqué déjà, et la chose est restée ainsi dans la période pré-islamique, parce que l'idolâtrie, l'adoration des idoles s'était propagée à cause de ce que Amr ibn Luhay avait laissé, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire revenir la religion du pur monothéisme, la religion d'Abraham alayhi salatu wa salam, et il a détruit donc la religion du shirk et la religion de l'ignorance et de la jahiliya, et il a détruit lui-même les idoles avec sa main le jour de la conquête de la Mecque. والحاصل أن عمر بن لوحي لما تشبه بعبدة الأصنام الذين لقيهم بالبلقاء من أرض الشام وقع في الكفر واستحق اللعنة واستحق العذاب الأليم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر لنا هذه القصة لأجل الاتعاظ ولأجل الحذر من أن نتشبه بالكفار ونستحسن شيئا من دينهم ونقلدهم في شعائر دينهم. وهذا الفعل هو من أقبح أنواع التشبه، لأنه تشبه في أمور الدين والعقيدة، ثم يأتي ما هو دون ذلك وهو التشبه بهم في عاداتهم وزيهم وشكلهم، وهذا أيضا يجب الابتعاد عنه والاستغناء بما شرعه وأباحه الله لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh explique ensuite que, en résumé, on peut dire que Amr ibn Luhay avait imité les adorateurs des idoles qu'il a rencontrés dans la région de Al-Balqa en Syrie, et donc il est tombé dans le kufr, il est tombé dans la mécréance, et il a mérité la malédiction et il a mérité le châtiment douloureux, wal'iyadhu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a uniquement mentionné cette histoire pour qu'on prenne une leçon de cela et pour qu'on fasse attention de ne pas ressembler yani au kuffar, ou pour ne pas qu'on pense du bien ou qu'on pense que quoi que ce soit de leur religion peut être bon, et pour pas qu'on les imite aveuglément dans les pratiques religieuses qu'ils ont, parce que cette forme de ressemblance et d'imitation est une des plus pires et plus laides formes d'imitation, c'est-à-dire l'imitation des kuffars et des mushrikines dans les questions religieuses et dans la aqida. Il n'y a rien de pire que ça. Puis il y a ensuite d'autres formes de ressemblance et d'imitation qui sont moindres en gravité, comme le fait de les imiter dans les questions de coutume, dans l'apparence, dans la mode ou dans l'apparence qu'ils ont, ou des choses comme ça, c'est-à-dire les les vêtements et les choses extérieures. Et il dit, même ça, malgré tout, il faut s'en écarter et s'en éloigner et se suffire de ce qui est dans la législation d'Allah et de ce que Allah nous a permis dans son livre et par la langue de son messager, alayhi salatu wassalam. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, وسورة الأنعام من عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى قوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله إلى آخر السورة خطاب مع هؤلاء الضرب ولهذا يقول تعالى في أثنائها سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا وأصل هذا التدين هو التشبه بالكفار وإن لم يكن يقصد المتدين وعليكم السلام ورحمة الله وإن لم يقصد المتدين التشبه بهم. Donc Ibn Taymiyyah explique ici, il dit que dans sourate Al-An'am, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans les versets 136 à 140 les versets suivants, et on va les lire ensemble parce que le Cheikh il ne les a pas tous cités, il a seulement mentionné quelques versets, le début du verset en question, mais on va le lire au complet ensemble pour comprendre tout ce que le Cheikh a voulu citer en réalité. Donc il cite à partir du verset 136. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَلَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم يعني قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Donc ça c'est les versets au complet, tout ce que le Cheikh il a voulu citer quand il commence son énumération ou la mention des versets en question. Il n'a pas cité tous les versets, mais il voulait mentionner tout ça, et on va lire la signification de ces versets à partir du verset 136. Il dit à propos des mushrikines, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des mushrikines ce qui signifie, et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé en fait de récolte et de bestiaux, et ils disent ceci est à Allah selon leurs prétentions et ceci est à nos divinités. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. Et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion. Or, si Allah voulait, il ne le ferait pas. Laisse-les donc ainsi, hein? Laisse-les donc ainsi que ce qu'ils inventent. Ensuite, et ils dirent, voilà des bestiaux et des champs frappés d'interdiction. N'en mangeront que ceux que nous voudrons, selon leurs prétentions. Et voilà des bêtes dont le dos est tabou, et des bêtes sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom d'Allah, des inventions contre lui. Il les rétribuera pour ce qu'ils inventaient comme mensonges. Et ils dirent, ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé aux mâles d'entre nous et interdit à nos femmes. Et si c'est un mort-né, ils y participent tous. Bientôt, il les rétribuera pour leurs prescriptions, car il est sage et omniscient. Ils sont certes perdants, ceux qui ont, par sottise et ignorance, tué leurs propres enfants, et ceux qui ont interdit ce que Allah leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés et ne sont point guidés. Donc ça c'est qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné à propos de ces choses. Et puis il dit que ça c'est un discours qui était pour montrer le discours de ces mushrikins. Hein? Et il dit وَلِهَذَا يَقُولُ تَعَلَى فِي أَثْنَائِهَا. Et pendant ce discours, il mentionne un peu plus tard, dans le verset 148, il dit سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. Ils essaient d'utiliser comme argument pour justifier leur shirk et leur péché l'excuse du qadar. Hein? Ils essaient d'utiliser l'excuse du qadar. Et bien entendu, Yanni, c'est toujours un argument qui est faux, d'utiliser le qadar pour essayer de justifier nos péchés. Puisque chaque personne qui fait un péché, il le choisit lui-même. Et donc il ne peut pas accuser Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais eux, ils disaient, ceux qui ont associé diront, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, ceux qui ont associé, c'est-à-dire ceux qui ont fait le shirk, diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné de partenaire ou d'associé, c'est-à-dire dans l'adoration, ni nos ancêtres non plus. Et nous n'aurions rien déclaré interdit parmi les bêtes. Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de mensonges les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté à notre rigueur. Donc, il dit ensuite, « Dis, avez-vous quelque science à nous produire ? Vous ne suivez que la conjecture et vous ne faites que mentir. » Puisqu'ils prétendent ces choses-là sans argument et sans preuve. Donc ça, c'est les versets en question. Et il dit, « وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَبْدَى هَذَا التَّحْرِيمُ تَرْكُ الْأُمُورَ الْمُبَاحَةَ تَدَيُّنًا وَأَصْلُ هَذَا التَّدَيُّنْ هُوَ التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ وإن لم يقصد المتدين التشبه بهم. Donc il dit, on sait très bien que la base de cette interdiction des animaux qu'ils ont interdits et des champs qu'ils ont interdits, à la base c'est il y a des choses qui sont permises et eux ils se le sont interdits pour des raisons soi-disant religieuses qu'ils ont inventées. Il dit à la base cette religion là c'est basée sur l'imitation des kuffars. Même si la personne qui le pratique comme religion n'avait pas l'intention à la base d'imiter les koufars en le faisant. D'accord? Et il explique ça ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit قال الله جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث وحجر هذه وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. Donc il cite tous les versets qu'on a lu tout à l'heure, qu'on a traduit avant, que Cheikh al-Islam qu'il a sauté, c'est-à-dire parfois les ulama pour raccourcir, ils mentionnent le début d'un verset, puis ils disent jusqu'à, puis après ils mentionnent la fin des versets qu'ils veulent citer pour sauver de l'espace ou sauver du temps, puisque ils écrivent ces livres-là pour des gens qui ont de la connaissance, pour des gens qui connaissent le Coran. Donc, quand ils vont lire ces premiers versets-là, ils vont savoir qu'est-ce qui vient par la suite. Donc, étant donné que parfois, nous, on a besoin de vérifier ou de lire le verset en question pour savoir qu'est-ce qui n'a pas été cité, donc nous, on retourne aux versets qui n'ont pas été mentionnés, puis on les rajoute pour clarifier le sens des versets qui n'ont pas été mentionnés, mais que le cheikh voulait citer en même temps, puisqu'il a il a dit « jusqu'à ». Ça veut dire de tel verset jusqu'à la fin de qu'est-ce qu'il cite. Et là, ici, on les a déjà lus et on les a traduits. C'est dans le sens, il dit ensuite « يَتَبَيَّنُ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَشْرَكُوا الْأَصْنَامَ فِي أَمْوَالِهِمْ لِأَنَّ حُبَّهَا قَدْ تَأَصَّلَ فِيهِمْ. » Donc il dit, on peut comprendre clairement dans les versets qu'on a lus que les mushrikines ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala ses idoles. Hein, ils ont associé ces idoles dans leur bien parce qu'ils les aiment. Et cet amour-là, elle est ancrée en eux-mêmes. Elle est profondément ancrée en eux-mêmes. Et il dit وَلَقَدْ جَعَلُوا الزَّرْعَ عَلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٌ لِلَّهِ وَقِسْمٌ لِلْأَصْنَامِ. Donc ils ont divisé la récolte qu'ils ont semée quand ils ont récolté des légumes ou des céréales ou des choses qu'ils ont plantées. Hein, quand ils font la récolte, ils divisent la récolte en deux. Une partie pour Allah et une partie pour leurs idoles. Après, il dit فَإِذَا جَاءَ السَّيْلَ أَوِ الرِّيحِ فَاحْتَمَلَ شَيْئًا مِنْ قِسْمِ اللَّهِ إِلَى قِسْمِ الْأَصْنَامِ إِلَى قِسْمِ الصَّنَمِ قالوا الله غني والصنم ضعيف فلا يردونه إلى قسم الله وإذا حملت الريح أو حمل السيل شيئا مما هو حق الصنم إلى قسم الله قالوا إن الله غني عن هذا وردوه إلى قسم الصنم وقال سبحانه يعني يصف ذلك وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. قيل المعنى أن الله بريء من الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالله غني عما جعلوه له فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله لأن الله بريء منه. Donc le cheikh il a expliqué qu'est-ce que signifient les versets en question. Hein, dans le verset, dans Surat Al-An'am, le verset 136. Et en fait, c'est pour montrer en fait comment ils sont, comment ils se contredisent et comment ils sont injustes. Donc, le Cheikh, il dit, il cite ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et ils assignent à Allah une part de ce qu'il a lui-même créé. » en fait de récolte et de bestiaux. Et ils disent, ceci est à Allah, selon leurs prétentions, et ceci est à nos divinités ou à nos idoles. Mais ce qui est pour leur divinité ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est pour Allah parvient à leur divinité. Comme leur jugement est mauvais. Comme ils se contredisent. Hein? Donc, voici ce que ça signifie. Le cheikh, il dit, on voit que les mouchriquines ont associé leurs idoles dans leurs biens. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Yani, ils divisent la récolte qu'ils ont fait en deux. Une partie pour Allah et une partie pour les idoles. Et quand il y a un vin, ou quand il y a, par exemple, yani de l'eau qui passe, hein, qui vient, par exemple, raser une partie de la récolte, si la partie de la récolte qui est partie, par exemple, c'est une partie de qu'est-ce qu'ils ont offert ou qu'est-ce qu'ils ont donné, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont prétendu que c'est la partie de qu'est-ce qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, de qu'est-ce qu'ils ont assigné à Allah, ils disent, ou bien plutôt, si par exemple la partie de qu'est-ce qui a été emporté par le vin ou par l'eau, c'est la partie qui appartenait à leurs idoles, ils vont prendre de la partie qu'ils ont assignée à Allah subhanahu wa ta'ala, puis le donner à leurs idoles. Parce qu'ils disent que Allah est riche, tandis que l'idole est faible. Donc ils le prennent, hein, et ils ne le remettent pas à la partie de qu'est-ce qu'ils ont assigné à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que si le vent vient, ou bien les courants d'eau passent, ou bien enlèvent une partie de qu'est-ce qui appartient à l'idole, ils prennent de la partie de l'idole, ils le donnent à ils prennent une partie de ce qui appartient à Allah, ils le donnent à l'idole encore. Et ils disent, ça c'est pour moi, ils disent que Allah est riche de toute façon, donc yani il le redonne à l'idole, il le redonne à la partie de l'idole. Donc c'est pour dire qu'est-ce qui appartient, qu'est-ce qu'ils ont assigné à Allah, ils le donnent à l'idole. Et quand c'est quelque chose qui a été enlevé à leur idole, ils le donnent à leur idole encore en prenant de ce qu'ils ont assigné à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire que yani ils jouent avec leur religion, et ils jouent avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils suivent leurs passions et leurs désirs. Il dit وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ. Il dit, certains également parmi les ulama ont expliqué que ça voulait dire en fait que la signification de quand on dit que ce qui appartient à Allah yani est donné à leurs idoles, c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en désavoue. Il s'en désavoue parce que si quelque chose que quelqu'un fait dans la religion, il ne le fait pas pour Allah seul, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'en veut pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala accepte seulement ce qui a été fait et donné purement pour lui seul. Donc si quelqu'un, il a fait un acte d'adoration et que dans cette adoration-là, il y a du shirk, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'en veut pas. Et comme c'est mentionné dans le hadith Qudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je suis celui qui se passe entièrement de tout partenaire et de tout associé. Je n'ai pas besoin de shirk. Je n'ai pas besoin de partenaire, je n'ai pas besoin d'associé. Et quiconque fait une action dans laquelle il va associer avec moi autre que moi, alors je l'abandonne lui et ce qu'il a associé avec moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même et il se désavoue de ce qui a été offert à autre que lui. Hein? Et donc c'est dans ce sens-là que ce qui appartient à Allah ou ce qui était assigné à Allah, il parvient à leurs idoles, tandis que ce qui était à leurs idoles, ils n'arrivent pas à Allah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala s'en désavoue. Donc ça, c'est une autre explication de ce verset. Le cheikh, il dit ensuite, ويتقربون إلى الأصنام أيضا بقتل أولادهم والعياذ بالله. وقال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم فهم يقتلون الأولاد لأمور ثلاثة: إما أنهم يقتلون الأولاد ذكورا وإناثا تقربا إلى الأصنام، وإما أنهم يقتلون الأولاد ذكورا وإناثا خشية الفقر، وإما أنهم يقتلون الإناث فقط خشية العار، وهذا من أمور الجاهلية، لأنه لا يجوز قتل النفس بغير حق، ولأن قتل الإنسان لولده فيه قطيعة الرحم، فيه قطيعة رحم وارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. Donc le cheikh explique que également les mouchriquines, ils se rapprochent de leurs idoles en tuant leurs enfants. Donc imaginez à quel point des gens sont déviés et égarés au point de tuer leurs propres enfants. Ils les tuent, et ils les donnent en sacrifice à l'idole ou des choses de ce genre. Allahu a'lam, je ne sais pas de quelle manière exactement, mais une chose que je sais par rapport à ça, c'est la fille, quand ils tuaient leur fille, ils les enterraient vivantes. Hein? Donc ça, c'est une mort atroce. Et donc, il y a beaucoup d'autres façons, peut-être, comment ils tuaient leurs enfants. Allahu a'lam, comment, les détails, je ne sais pas, mais une chose est certaine, ils tuaient leurs enfants. Et dans le verset 137, en surat al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup de mouchriquines le meurtre de leurs enfants afin de les ruiner et de travestir à leurs yeux leur religion. Hein? Donc, il dit que la façon, ou bien plutôt les raisons pour lesquelles les mouchriquines tuaient leurs enfants, c'est de trois raisons. Il dit soit qu'ils tuaient leurs enfants, garçons et filles, pour s'approcher de leurs idoles, par adoration pour leurs idoles. Donc ils faisaient ça comme un genre d'offrande aux idoles. Ou bien qu'ils tuaient leurs enfants, filles ou garçons, par crainte de la pauvreté. Parce qu'ils avaient peur d'être, de ne pas être capables de se nourrir ou de les nourrir, alors ils les tuaient. Et la troisième façon, c'est lorsqu'ils tuaient les filles seulement. Et ils tuaient les filles pourquoi ? Par crainte de la honte et de la gêne. Et ça fait partie des choses de la jahiliya que faisaient les mouchriquines. Parce qu'il n'est pas permis dans l'islam de prendre l'âme de quelqu'un injustement. Et parce que le fait de tuer un être humain, hein, qu'un homme tue son enfant, ça c'est en même temps le fait de couper les liens de parenté. Et aussi, c'est de commettre un grand péché parmi les grands péchés. Donc, c'est grave. Et le cheikh, il dit, لِأَنَّ ثُمَّ إِنَّ الَّذِي يُحَرِّمُ الْحَلَالِ قَدْ تَشَبَّهَ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمِثَالُهُ الَّذِي يُحَرِّمُ عَلَى نَفْسِهِ الْحَلَالَ مِنْ بَابِ التَّعَبُّدِ وَالزُّهْدِ وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَجُوزُ شَرْعًا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للنفر الثلاثة الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. Donc le cheikh explique que ensuite ceux qui interdisent ce qui est halal pour imiter les gens de la jahiliya, ils imitent les gens de la jahiliya en s'interdisant des choses qui sont halal. Et ça, c'est pas permis. D'interdire des choses halal, c'est pas permis. Et il dit que l'exemple de ça, c'est l'exemple des gens qui s'interdisent des choses halal, hein, pour eux-mêmes, dans le but de le faire pour comme une adoration ou pour faire preuve de yani de yani, comment je pourrais dire, quelqu'un qui se détache de la dunya, qui aime pas la dunya, il veut montrer que il est plus une personne spirituelle, il veut pas manger des choses qui sont trop bonnes, hein, pour yani, ou des choses qui sont délicieuses. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'abstient de manger des bonnes choses et il se prive des choses qui sont permises. Par exemple, il va dire moi je veux pas épouser une femme, je veux rester célibataire. Ou bien il dit moi je vais pas manger de viande, ou bien il dit je vais pas porter des beaux vêtements, je vais marcher comme ça avec des vêtements qui sont vieux et des choses comme ça, parce qu'il veut montrer qu'il est religieux, qu'il est pieux, qu'il aime pas la vie d'ici-bas ou des choses comme ça. Cheikh, il dit ça c'est quelque chose qui n'est pas permis selon la religion de l'islam et la législation d'Allah. Et l'exemple de ça, c'est l'exemple des trois hommes qui avaient interdit ce genre de choses à eux-mêmes, et c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a permises. Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ces gens-là? Il leur a dit moi je fais la salat et parfois je dors. Parce qu'il y en a un des trois qui a dit moi je vais pas dormir la nuit, je vais toujours prier la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, parfois je prie la nuit, parfois je dors. Et l'autre qui voulait toujours jeûner tous les jours, il a dit non, parfois je jeûne, parfois je jeûne pas. Et l'autre il voulait pas épouser de femme, il a dit je vais rester célibataire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit moi j'épouse des femmes. Alors il a dit quiconque cherche autre que ma voie et préfère autre que ma sunna, alors il n'est pas de moi. Hein, je me désavoue de lui. Alors il dit فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الَّذِي يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنَ الْحَلَالِ مِنْ بَابِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ تَشَبَّهَ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ سَوَاءَ قَصَدَ ذَلِكَ أَمْ لَمْ يَقْصُدْهُ وَلَكِنْ إِذَا قَصَدَهُ فَهُوَ أَشَدْ. Donc le cheikh il dit le fait de chercher le fait de rechercher, parce qu'il dit si quelqu'un s'interdit quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu halal et il veut se l'interdire pour se rapprocher d'Allah, parce qu'il prétend qu'il veut se rapprocher d'Allah par cela, alors en agissant ainsi il a imité les gens de la jahiliya. Peu importe qu'il a eu l'intention de les imiter ou non, mais s'il n'a pas eu l'intention, hein, déjà c'est pas bon. Même s'il n'a pas eu l'intention, déjà c'est pas bon parce qu'il les imite. Mais s'il a eu l'intention de les imiter, alors c'est encore plus grave. Le cheikh il dit, non parce qu'il y a des, pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des fois des gens qui imitent les mouchriquins ou qui imitent des koufars et qui disent non mais c'est pas grave parce que c'est pas mon intention de les imiter. En voulant dire que si tu les imites sans que ce soit ton intention, ils pensent que c'est permis. Non, même si c'est pas ton intention, c'est pas de les imiter, c'est quand même haram. Hein? C'est pas une, l'intention n'est pas une condition dans at-tashabbuh bil kuffar. C'est-à-dire que lorsqu'il est question d'imiter les kuffars, ton intention n'est pas une condition pour que ce soit interdit. D'accord? Et il dit ensuite Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار فكيف إذا جمعت الوصفين ولهذا جاء في الحديث ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها أخرجه الدارمي. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que on a compris maintenant, hein? C'est devenu clair pour toi que parmi les fondements des cours de la religion d'Allah et de sa législation et de sa révélation, il apparaît, et de l'apparence du kufr et des péchés, hein, il y a le fait d'essayer d'imiter les kafirines, les mécréants. De même que parmi les fondements de tout le bien, hein, les fondements de tout ce qui est bien, c'est d'essayer de préserver les exemples des prophètes, ainsi que de leur législation et de leur révélation. Et c'est pour cette raison-là que le fait de tomber dans la bid'a, c'est une chose très grave dans la religion. Même si ce n'est pas pour ressembler au kuffar, alors qu'est-ce qu'on dirait de la personne qui non seulement fait des innovations dans la religion, mais il le fait en même temps pour imiter les kuffar? Ça, c'est encore plus grave. Et c'est pour ça qu'il a été dit dans le hadith qui est rapporté selon Ad-Darimi que il n'y a pas un peuple qui invente une innovation ou qui suit une innovation, excepté qu'on leur retire ce qui lui est semblable de la sunna, qu'on leur retire ce qui en est semblable ou ce qui est égal à celui-là ou à celle-là, comme faisant, yani, pour chaque bid'a qu'ils font, on leur enlève une sunna. C'est ça que ça veut dire. Chaque fois qu'ils vont faire une bid'a, on va leur retirer une sunna. Il dit ça, c'est un hadith qui est rapporté selon Ad-Darimi. Donc c'est attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il y a aussi cette parole qui a été rapportée de plusieurs parmi les salafs. Ils ont mentionné cette parole. Hein? C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un va inventer une bid'a, on va leur retirer une sunna. Le Cheikh Al-Fawzan, il commente et il explique ce passage. Il dit, يعني أن التشبه مذموم ومرذول من ناحيتين. الأولى أن هذا التشبه يسبب اندراس يسبب اندراس دين الإسلام يسبب اندراس دين الإسلام واستقدام دين غيره، لأننا إذا تشبهنا بهم في عاداتهم وفي دينهم فمعناه أننا استبدلنا الذين هو أدنى بالذي هو خير، فكلما كثر التشبه صار ذلك نقصا في ديننا. Donc le cheikh, il explique que l'imitation des kuffars, c'est quelque chose de blâmable et quelque chose de rabaissant. De deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que le tashabbuh, le fait de ressembler aux kuffars, c'est une des choses qui fait en cause ou qui sera une cause de la disparition de la religion de l'islam. Et le fait que la religion de l'islam devient de plus en plus faible et de plus en plus, elle commence à s'affaiblir et se défaire. Et ça fait en sorte également qu'on ramène une autre religion à la place de l'islam. Parce que quand on ramène des bid'ahs, c'est comme si on enlevait l'islam et on le remplaçait par une autre religion nouvelle. Et il dit, pourquoi? Parce que quand on agit ainsi, on imite les koufars dans leurs traditions, dans leurs adorations, dans leur religion aussi. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a remplacé ce qui est meilleur par ce qui est mauvais. On a laissé de côté ce qui est meilleur et on l'a remplacé par quelque chose qui est moins bon. Et donc, plus on imite les koufars, plus que ça ramène de la faiblesse et des manques dans la religion et des imperfections dans la religion. Le deuxième point de vue, النحيه الثانيه ان التشبه بهم في حد ذاته منهي عنه اما نهي تحريم اما نهي تحريم واما نهي كراهه وهذا التشبه بهم ممنوع مطلقا لان في هذا التشبه طمس لمعالم ديننا وإظهار لغيره ولأن ذلك التشبه إظهار لمحبة إظهار إظهار المحبة للمتشبه به، ومن هذا إحداث البدع، فالبدع هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، فإن البدعة تحل محل السنة، فبذلك تصير البدع هي الدين، وتصير السنن غير الدين، فالسنة والبدعة لا تجتمعان. قد جاء في الأثر أنه في آخر الزمان تكثر البدع، حتى إذا غيرت البدع قيل غيرت السنة، لأن الناس لا يتخذونها دينا وسنة، فإذا غيرت البدع استنكروا هذا، ولا سيما مع طول الزمان والممارسة. ولذلك إذا جاء مسلم ودعا إلى إحياء السنة أنكروا عليه، لأنهم ألفوا البدعة وتركوا السنة، فصارت السنة منكرة والبدعة معروفة عندهم. Donc le cheikh dit le deuxième point de vue, pourquoi la bid'a, pourquoi plutôt l'imitation des kuffars est quelque chose de blâmable. Le deuxième point de vue, c'est que le fait de les imiter est une chose qui est en elle-même interdite, et que c'est interdit soit de façon yani, comme on dit nahyu tahrim, soit c'est une interdiction qui est absolue dans le but de montrer que c'est quelque chose qui n'est pas permis dans l'islam, ou soit que c'est une interdiction dans le sens de quelque chose de détestable, dans le sens que c'est quelque chose qui est détestable et non pas une interdiction absolue. Donc soit que c'est, comme on dit, haram, la bid'a ou l'imitation des kuffars, soit que c'est haram ou soit que c'est makruh. Mais dans les deux sens, c'est quelque chose qui est détestable et qui est mauvais. D'accord ? Donc l'imitation des kuffars, il dit, soit que c'est clair que c'est une chose qui est en elle-même haram, soit que c'est haram absolument ou makruh. Et il dit, donc lorsque, donc on dit de façon claire que at-tashabbuh, l'imitation des kuffars, c'est quelque chose qui est absolument interdit. Pourquoi ? Parce que quand on imite les kuffars, c'est quelque chose qui vient en même temps détruire les principes et les enseignements de notre religion et remplacer ça par quelque chose d'autre. Parce que lorsque il y a de l'imitation des kuffars qui est mise en application, ça indique également de l'amour pour la personne qu'on imite. Donc si on imite les kuffars par exemple, ça veut dire quoi? Que dans notre cœur on a de l'amour pour les kuffars, parce que tu vas pas imiter quelqu'un que tu détestes, tu imites quelqu'un que tu aimes, hein? En général tu vas jamais imiter quelqu'un que tu méprises ou quelqu'un que tu considères comme étant en dessous de toi. Tu vas imiter quelqu'un que tu le vois au-dessus de toi, que tu considères comme étant un exemple, un modèle. C'est lui que tu imites. Donc si au lieu d'imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'imiter les sahaba, et d'imiter les ulama de la Ummah, toi tu imites les kuffars, les mushrikin, et tu suis leur mode, et tu suis leur façon de vivre, et tu laisses les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam, ça veut dire que dans ton cœur il y a de l'amour pour ces choses-là. Hein? Ça veut dire que dans ton cœur il y a de l'amour pour qu'est-ce que font les kuffars, les mushrikins, et ça c'est très grave. Il dit وَمِنْ هَذَا إِحْدَاثُ الْبِدَعِ, et de là viennent également l'imitation des innovations. Parce que beaucoup des innovations qui sont introduites dans l'islam, elles viennent pourquoi? Parce qu'on a imité des juifs ou des chrétiens ou des idolâtres ou des mushrikins, et on veut copier ce qu'ils font puis le faire introduire dans l'islam, de le pratiquer au nom de l'islam alors que ça ne fait pas partie de l'islam. Et ça s'est produit beaucoup dans les siècles, yani à travers les siècles dans différentes régions dans le monde. L'islam est arrivé dans différents pays, et déjà avant d'être musulmans, ils faisaient partie de différentes religions. Les Arabes, ils avaient du shirk, ils adoraient des idoles. Déjà dans d'autres pays, ils avaient d'autres religions, d'autres croyances. Soit ils étaient chrétiens, soit ils étaient juifs, soit ils étaient majus, soit ils étaient des gens qui adoraient des idoles ou des esprits ou d'autres. Alors quand l'islam est arrivé dans leur pays, eh bien parfois ils essaient de mélanger les croyances qu'ils avaient avant l'islam avec l'islam. Puis ils essaient de mélanger ça ensemble, puis de dire ça c'est la religion. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des innovations dans l'islam. Ça fait des bid'ah, des innovations dans l'islam. Et donc qu'est-ce qui arrive? C'est quoi le danger de ça? C'est que on invente dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Et la bid'ah, elle prend la place de la sunnah par la suite. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive comme conclusion de ça? C'est que les gens pensent que la bid'ah, c'est ça l'islam. Ça veut dire que la bid'ah devient la religion musulmane. Les gens disent, l'islam c'est la bid'ah, mais ils ne savent pas que c'est une bid'ah, donc ils pensent que c'est la sunnah. Ça veut dire que pour eux, la bid'ah c'est la sunnah, et la sunnah devient pour eux une bid'ah. Donc la religion est complètement inversée pour eux, mélangée pour eux, ils ne comprennent plus la différence par la suite entre la réalité de la religion de l'islam et la bid'ah. Ils ne peuvent plus faire la distinction. Alors pour eux, la religion devient, qu'est-ce qui est bid'ah, c'est ça la religion. Qu'est-ce qui est sunna, pour eux c'est étranger. Hein? Et donc les sunnans deviennent autres que la religion, et la sunna et la bid'ah, elles ne peuvent pas être réunies ensemble. Tu ne peux pas rassembler en même temps la bid'ah et la sunna. C'est comme de l'eau et de l'huile, hein? Ou du feu et de l'eau. Tu ne peux pas les mettre ensemble. Hein? Soit il y a un ou l'autre, les deux ne peuvent pas être ensemble. Alors qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, comme c'est mentionné dans la tradition, il y a une parole des salafs qui dit ça, que à la fin des temps, il y aura beaucoup d'innovations que les gens vont faire, jusqu'à ce que quelqu'un va venir pour enlever la bid'ah et ramener la sunna, les gens vont dire, ah, lui il est venu changer la sunna. Alors qu'il ne veut pas changer la sunna, il veut enlever la bid'ah. Mais les gens pensent que c'est la bid'ah qui est une sunna. Alors quand lui il vient pour ramener la sunna, les gens disent, ah, lui il veut changer la sunna. A'udhu billah. C'est ça qui fait que les gens par la suite deviennent mélangés dans leur religion. Pourquoi? Parce que les gens ont pris cette innovation comme faisant partie de l'islam, comme faisant partie de la religion d'Allah. Et donc quand tu veux changer cette bid'ah, les gens commencent à te critiquer. Les gens commencent à condamner, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, mais quoi, tu es en train de nous ramener une nouvelle religion? C'est pas la nouvelle religion, c'est ça l'islam. C'est pas une bid'ah, c'est pas ça la bid'ah, c'est ça l'islam à la base. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pratiquait. C'est ça que les sahaba, ils pratiquaient. C'est ça que les tabi'in, ils pratiquaient. Et c'est ça que les tabi'in, ça qu'ils pratiquaient aussi. Puis par la suite, les gens ont inventé des choses qui ne font pas partie de l'islam, ils ont mis ça dans la religion. Les gens ont pensé que c'était ça l'islam, jusqu'à ce que quelqu'un arrive pour clarifier aux gens, c'est pas ça l'islam, qu'est-ce que vous faites maintenant, c'est des bid'ah, c'est des innovations, et moi je vous ramène la sunna comme elle était au début. Et les gens sont mélangés, confus, ils disent, mais non, toi tu veux changer l'islam, tu veux nous ramener une nouvelle religion, hein? Et donc, et surtout lorsque l'affaire elle a été pratiquée pendant longtemps, hein? Pendant parfois même des siècles. Parfois c'est plus que 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans que la bid'ah elle a été pratiquée par des gens. Les gens ils disent, ça y est, c'est ça l'islam. Hein? Tu veux changer la religion de nos ancêtres, comme les mouchriquines disaient. Hein? Et tu leur ramènes les preuves du Coran et de la Sunna. Ils disent, nous on suit qu'est-ce que nos ancêtres ont suivi. Ils parlent maintenant comme parlaient les mouchriquines auparavant. Nasalullah al-afiyah. Donc le cheikh il dit... Et c'est pour ça que le musulman, lorsqu'il appelle à faire revivre la sunna, les gens condamnent ce qu'il veut faire. Parce qu'ils ont aimé la bid'ah et ils ont abandonné la sunna. Et pour eux, la sunna est devenue mauvaise. Et la bid'ah, c'est qu'est-ce qu'ils ont aimé et connu. Donc ils ne l'acceptent pas. Hein, à cause de ça, c'est dangereux. Et le cheikh, il dit, « Wa aydan, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, رحمه الله إلذي وأيضا فقد روى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير ابن أنس عن ميمونة له من الأنصار رضي الله عنه عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكروا القنع شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود قال فذكروا له الناقوس قال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الآذان قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرنا قال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله فقال فأذن بلال قال أبو بشر فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا اي نعم donc là le cheikh il explique maintenant cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne l'histoire comment le prophète صلى الله عليه وسلم a assigné le adhan pour la ummah et comment dans l'exemple de ça il y a le fait qu'il ne voulait pas imiter les kuffars puisque dans l'histoire c'est mentionné que il dit selon Abu Umayr ibn Anas selon des oncles à lui parmi les Ansar qu'ils ont dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a pensé à un moyen pour réunir les gens à la prière alors quelqu'un a dit ou des gens ont dit pourquoi tu ne mettrais pas une bannière ou un drapeau lorsque vient le temps de la prière les gens vont voir le drapeau et ils vont s'appeler les uns les autres pour aller faire la prière mais il n'a pas aimé cela alors un autre a suggéré d'appeler avec une trompe ou une corne comme les juifs utilisent pour appeler à la prière et il a dit ça fait partie des affaires des juifs en voulant dire je veux pas imiter les juifs quelqu'un d'autre a dit pourquoi on n'utilise pas une cloche le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça c'est les affaires des chrétiens je veux pas utiliser ça alors Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih il est parti il a pensé à qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pensé et pendant qu'il a dormi il a vu dans un rêve dans un songe le adhan alors il est retourné le lendemain pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit oh messager d'Allah j'étais à moitié endormi au moment où j'ai vu dans mon rêve yani le adhan et donc il dit et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il l'avait déjà vu avant lui le adhan mais il l'a caché pendant 20 jours c'est-à-dire il l'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 20 jours puis il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit j'ai vu moi aussi le adhan ça fait 20 jours mais j'en avais pas parlé Il a dit, pourquoi tu nous, qu'est-ce qui t'a empêché de nous informer de ça? Il a dit, parce que Abdullah ibn Zayd, il l'a dit avant, il l'a dit avant moi, et j'ai été gêné de le mentionner. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Bilal, lève-toi et regarde ce que Abdullah ibn Zayd va t'ordonner de faire, alors fais-le. Alors Bilal a fait le adhan, et Abu Bishr, il a dit que Abu Umayr, il nous a informé que les Ansar pensaient que Abdullah ibn Zayd aurait été celui qui allait être ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le adhan s'il n'avait pas été malade. Mais étant donné qu'il a été malade, ils disent que yani, c'est Bilal à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire le adhan. Le cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith. Et je ne sais pas si on a le temps, je pense qu'on a le temps de l'expliquer. Il dit Al-Maqsoud, min hada al-hadith al-istidlalu ala man' al-tashabbuh bil-yahudi wal-nasara fi umur al-ibadat. Qu'est-ce qu'on veut tirer de le but de ce hadith? C'est pour montrer la preuve qu'il est interdit d'imiter les juifs et les chrétiens dans les questions de l'adoration. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة احتاج المسلمون إلى إيجاد وسيلة لجمع المسلمين للصلوات الخمس في المساجد ولقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر ولكنه لم ينزل عليه وحي في ذلك فأشار عليه بعض أصحابه أن ينصب راية يعني علما فوق مرتفع فإذا رأوه الناس رأوه جاءوا فلم يستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم أشاروا عليه أن يستعمل البوق وهو شيء ينفخ فيه فيصدر صوتا يصدر صوتا فقال إن هذا لليهود وذكروا له الناقوس وهو شيء يضرب عليه فيكون منه صوتا يعني وهو الذي يستعمله النصارى لصلواتهم فقال إنه للنصارى يعني ونحن منهيون عن التشبه باليهود والنصارى والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتبع ما أنزل إليه من ربه ويتوقف في الأشياء التي لم ينزل فيها وحي. Donc le cheikh il résume qu'est-ce qu'on a mentionné dans le hadith, qu'il a voulu, lorsqu'il est arrivé à Médine, trouver un moyen de réunir les gens pour les cinq prières à la mosquée. Alors, il a commencé à penser à ce sujet, mais aucune révélation n'avait été révélée là-dessus. Alors, certains compagnons ont dit, pourquoi pas utiliser un drapeau? Et il n'a pas aimé ça. Il a dit, pourquoi pas utiliser une trompe, quelque chose qu'on souffle dedans, comme les juifs? Il a dit, non, ça c'est pour les juifs. Il a dit pourquoi pas, ils ont dit pourquoi pas une cloche, on frappe dessus comme avec une cloche comme les chrétiens. Il a dit non, ça c'est pour les chrétiens. Et on a été interdit d'imiter les juifs et les chrétiens. Et on suit uniquement ce qui a été révélé de notre Seigneur. Donc dans les questions sur lesquelles il n'y a pas de révélation, on s'abstient. Et il dit ensuite, وفي هذا الحديث من الفائدة أنه يجب على أهل العلم عدم التسرع في الفتاوى والقول في الدين ما لم يكن عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فها هو النبي صلى الله عليه وسلم توقف واستشار أصحابه فلو أن متعلمين وعلماءنا سلكوا هذا المنهج العظيم وهو التشاور فيما بينهم في قضايا الأمة المسلمة لكان في ذلك الخير الكثير فالرسول صلى الله عليه وسلم توقف في هذه القضية مع اهتمامه بها واستشار أصحابه فيها. Il dit le cheikh qu'il y a un autre point bénéfique dans ce hadith, c'est qu'il est obligatoire aux hommes de science de ne pas se précipiter dans les verdicts religieux et les fatwa et dans le fait de parler à propos de la religion d'Allah tant qu'il n'y a pas de preuve à ce sujet dans le livre d'Allah ou la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit ici l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'arrête et qui prend le conseil de ses compagnons Et donc si nos enseignants et nos ulamas suivaient la même voie que cette grande voie que les sahabas ont suivi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi, de se consulter entre eux dans les questions qui ont rapport avec les affaires de la umma des musulmans, eh bien il y aurait dans cela un grand bien, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu et s'est arrêté dans cette question-là, alors qu'il y avait une grande importance pour les musulmans dans cette question, et il a demandé le conseil de ses compagnons à son sujet. وكان عبد الله ابن عبد ابن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه متهما مهتما لهم مهتما لهم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رؤيا رأى رجلا معه بوق فقال أعطيه قال وما تصنع به قال ندعو به إلى الصلاة ورأى رجلا معه ناقوس فطلبه منه وقال أريد أن أدعو به إلى الصلاة قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك على ما هو خير من ذلك قال بلى ثم أتى بألفاظ الأذان من أولها إلى آخرها الله أكبر أربع مرات والشهادة أن لا إله إلا الله مرتين والشهادة أن محمدا رسول الله مرتين وحي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين ثم الله أكبر الله أكبر ثم يختم بلا إله إلا الله فهذه خمس عشرة جملة فهذه خمس عشرة جملة فيها ذكر الله وتعظيمه جل وعلا والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح ثم جاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رآه بما رأى في منامه فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك وهذا فيه أنه يستحب في المؤذن أن يكون ندي الصوت أي حسن الصوت وأن يكون جهوري الصوت أو جهوري الصوت لأن هذا هو المقصود من الأذان. Donc le cheikh il explique ensuite que Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi al-Ansari, il a été quand il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est préoccupé par cette question de l'appel à la prière, alors lui aussi il a été préoccupé par cela et il a pensé à cela, et donc il a vu dans son rêve, il a vu un homme avec une corne ou avec une trompe, et il lui a donné, il a dit qu'est-ce que je vais faire avec, il a dit tu vas appeler à la salat. Il a vu ensuite un homme avec une cloche, alors il lui a demandé, il a dit je veux appeler les gens à la salat. Il a dit tu veux que je te montre qu'est-ce qui est meilleur que ça, il a dit certes oui, alors il lui a mentionné les termes du adhan, les paroles du adhan, et il lui a expliqué du début à la fin qu'est-ce qu'il doit dire. Alors il a commencé à dire quatre fois Allahu Akbar. Après il a dit le témoignage Ashhadu an la ilaha illallah deux fois, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah deux fois, puis Hayya ala salat deux fois, puis Hayya ala al-falah deux fois, puis Allahu Akbar Allahu Akbar, puis il termine cela par la ilaha illallah une fois. Ça fait en tout 15 phrases. Il dit 15 phrases dans lesquelles il y a le rappel d'Allah et le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'appel à la salat et l'appel au succès. Puis Abdullah ibn Zayd est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a informé de ce qu'il a vu dans son rêve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça c'est un rêve véridique, incha'Allah. Puis il s'est levé avec Bilal et il lui a dit ce que le sahabi avait vu dans son rêve, et il lui a dit de le dire dans son adhan. Il a dit parce qu'il a une voix plus belle que toi. C'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi selon Abdullah ibn Zayd. Il dit, ça c'est la preuve que c'est recommandé que le muadhin ait une belle voix et qu'il ait une voix forte. Hein, parce que c'est ça le but et l'objectif du adhan, c'est de faire connaître aux gens, yani, l'entrée de la prière, l'entrée du temps de la prière. Il dit, وَذَكَرَ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْأَنصَارَ قَالُوا إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ زَيْدٍ كَانَ مَرِيضًا ولا يستطيع الأذان ولولا ذلك لجعله النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤذن ولكن اللفظ الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التعليل بغير هذا وهو نداوة صوته وحسنه وحسنه وجهوريته فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأذان جاء يشتد وقال يا رسول الله إني رأيت مثل ذلك يعني فتكون هذه الرؤية تواطأت أي من أكثر من شخص. Donc le cheikh dit que le cheikh rahimahullah il a mentionné que les Ansar ils ont dit que Abdullah ibn Zayd était malade à ce moment-là, il pouvait pas faire le adhan, mais que s'il avait pas été adhan, s'il avait pas été malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait demandé de faire le adhan et d'être le muadhin. Sauf que dans la narration qu'on a lue, on voit que la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Bilal, c'était pas parce que Zayd était malade, mais plutôt parce qu'il avait une plus belle voix et parce qu'il avait une voix plus forte également. Et donc, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, quand il a entendu le adhan pour la première fois, il a trouvé ça, hein, il a trouvé ça que, yani, parce qu'il avait vu ça lui aussi dans un rêve. Donc il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, j'ai vu la même chose, moi aussi. J'ai vu ça dans un rêve, moi aussi, le adhan. Alors, son rêve est venu confirmer le rêve de l'autre sahabi, hein. Et donc ça veut dire que plusieurs parmi les sahaba ont vu la même chose. Plusieurs parmi les sahabes ont vu le adhan, hein? Et donc il dit al-gharad min al-ityan bi hadhihi al-qissa bayan mukhalafat al-yahud wa an-nasara fi umur dinihim li'anna at-tashabbuha bihim fi al-dhahir yadullu ala mahabbatihim fi al-batin. Donc la raison de ramener cette histoire, c'est d'expliquer qu'il faut contredire les juifs et les chrétiens dans les affaires qui sont religieuses et qu'il ne faut pas les imiter, parce que si on les imite à l'intérieur, si on les imite, ça veut dire que si on les imite dans ce qui est apparent, ça prouve que à l'intérieur on les aime. ولأن التشبه بهم في العبادات يقضي على السنن ويحل البدع. Donc le fait de les imiter également dans les adorations, ça élimine les sunan, les exemples des prophètes, et ça ramène à la place les innovations. فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم s'est abstenu de suivre l'exemple des juifs et des chrétiens dans la façon d'appeler à la prière. Et il dit امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وابدلنا الله بفضله ومنته ما هو خير من هذه الوسائل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a remplacé par sa grâce et sa faveur quelque chose qui est meilleur que les moyens qu'utilisent les juifs et les chrétiens. فالبوق والناقوس كلاهما فيه ترنم وتطريب ولهو فأبدلنا الله منهما بهذه الكلمات الطيبة التي فيها ذكر الله وتعظيم لله سبحانه وتعالى. Il dit que la trompe et la cloche, ce sont des choses qui font de la musique et du bruit. Et Allah nous a remplacé ça par quelque chose qui est meilleur, c'est-à-dire des belles paroles et quelque chose dans lequel il y a le rappel d'Allah et l'exaltation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est meilleur que la cloche et ce genre de choses. Il dit aussi Et on va s'arrêter ici, inshallah. Il dit wa fil hadith dalil ala man' at-tashabbuh bi ahli al-kitab fi umur ad-din wal-ibadat wa fi ibadatihim al-khassah bihim min wajh 'am, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم النهي فقال من تشبه بقوم فهو منهم, يعني بأي نوع من التشبه, وهذا وعيد شديد يقتضي تحريم التشبه بعموم الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. Donc le cheikh il dit qu'il y a dans ça une preuve de l'interdiction d'imiter les gens du livre dans les questions de religion et d'adoration, et il dit que en particulier dans leurs adorations, yani wafi adatihim al-khass, et également dans leurs traditions qui leur sont particulières, yani de façon générale, on n'a pas le droit de les imiter dans leurs traditions qui leur sont particulières et spécifiques. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'interdiction de les imiter de façon générale lorsqu'il a dit quiconque imite un peuple, il est un des leurs. C'est-à-dire que peu importe la catégorie ou la sorte de ressemblance avec ces kuffars, tu n'as pas le droit, tu ne dois pas les imiter. Et ça, c'est une menace sévère qui implique l'interdiction de ressembler à tous les kuffars en général, que ce soit des gens du livre ou autres. Na'am. Donc ça c'est qu'est-ce qui vient conclure inshallah le cours d'aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine bi'idhnillah avec la suite de ces explications inshallah. Oui, toujours akhi. Na'am. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.